Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine Berocchini, Samuel Bernard, Caroline Bonin, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Juliette Belperroux. Deuxième volet donc consacré à l'Amérique centrale. Après avoir évoqué le recul démocratique dans ces pays qui ont presque tous connu des dictatures, des guerres civiles avant de se démocratiser à partir des années 90, nous allons parler d'économie. La situation géographique des pays d'Amérique centrale est particulièrement privilégiée. Un espace entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, sur un isthme séparant le Pacifique et l'Atlantique, et donc jamais très loin d'installations portuaires potentiellement capables d'exporter partout dans le monde les richesses produites sur place. Et pourtant, les économies de ces pays ne sont pas à la hauteur de ce potentiel. Comment le comprendre? C'est la grande question sur laquelle nous allons nous pencher ce matin.
Si notre continent et si le monde est relié, c'est grâce à notre route maritime. Le drapeau panaméen est le seul qui devra flotter à jamais sur le canal.
Nous avons eu des discussions au sein d'Intel et ensuite nous avons décidé de nous implanter au Costa Rica car Intel a jugé que le Costa Rica pourrait être le lieu idéal pour cette collaboration. D'une part parce qu'elle avait le personnel adéquat et d'autre part parce que le Costa Rica se trouve très proche des États-Unis. Avoir deux systèmes de contrôle sûrs de la qualité tout au long de la chaîne de production sera, je pense, un facteur très important pour réussir à obtenir un produit frais et sain pour le consommateur et adapté à être exporté légalement sur le marché nord-américain ou européen.
Le Honduras, important exportateur de filets de tilapia, ce poisson désormais produit et exporté un peu partout dans le monde, le fabricant de composants électroniques américains, Intel, implanté au Costa Rica, et bien sûr, ce canal de Panama, une énorme source de richesse pour le pays, quelques-uns des piliers de l'économie centra-américaine actuelle. Malgré les indépendances des pays d'Amérique centrale, mais aussi le retour de la paix et de la démocratie dans les années 90, ces États ont encore beaucoup de mal à consolider leurs économies. Des productions limitées, très tournées vers les exportations, les exposant dangereusement aux crises conjoncturelles mondiales, des investissements insuffisants, une sous-région qui a bien du mal à assurer seule son développement économique et social. Alors pour quelles raisons? Quels sont les principaux obstacles et quelles sont les perspectives en la matière? Quels sont les efforts aussi pour diversifier ces économies de la région et pour sortir de cette dépendance vis-à-vis des grandes puissances voisines, les États-Unis bien sûr, mais aussi le Venezuela, le Mexique, et avec quels résultats? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité un géographe avec nous ce matin, Sébastien Velu, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'IHAL, l'Institut des hautes études en Amérique latine. On va évoquer certains des pays que j'évoquais dans mon introduction, le Panama, le Costa Rica, le Honduras et bien d'autres encore. Mais d'abord, peut-être une dimension un peu générale, parce que, évidemment, aujourd'hui, toutes les économies du monde sont interconnectées. C'est à la fois la cause et le produit de la mondialisation, évidemment, mais c'est vrai que l'Amérique centrale est particulièrement dépendante de la santé économique mondiale. D'ailleurs, on l'avait vu au moment de la crise de 2008, qui avait révélé précisément ce niveau de dépendance où finalement, l'impact de la crise avait été à la fois très fort et très rapide en réalité. Comment expliquer cette incroyable dépendance de ces économies régionales, Sébastien Velu?
La dépendance des économies de l'Amérique centrale, c'est d'abord une dépendance à l'économie des États-Unis, d'abord. Avant de parler d'économie mondiale, c'est quand même le principal partenaire et on entendait dans les premiers commentaires la question de l'implantation de Intel au Costa Rica. Et plus généralement, les exportations de l'Amérique centrale sont très largement tournées vers les États-Unis, qui est aussi le premier pays d'émission de touristes vers l'Amérique centrale. Donc là, il y a vraiment une interdépendance très forte. Et puis, bien évidemment, il y a un cas à part, c'est le cas du Panama, qui lui est dépendant de l'économie mondiale, puisque en gros, les revenus sont proportionnels au trafic qui circule dans le canal.
Est-ce que la crise de 2008, précisément, a, selon vous, créé un électrochoc chez ces pays-là qui se sont rendus compte, justement, de ce niveau de dépendance vis-à-vis des États-Unis, bien sûr, mais vis-à-vis, au fond, du commerce mondial en général?
La dépendance de l'Amérique centrale ne date pas de 2008. Elle est beaucoup plus ancienne. Et on se souvient que c'est notamment en Amérique centrale que United Fruit Company avait ses grandes plantations de bananes qui ont été décrites dans un certain nombre de romans, mais qui liaient fortement cette économie d'Amérique centrale avec les économies des États-Unis, que le café de l'Amérique centrale, il partait vers les États-Unis, que le canal de Panama, il a été fait par les États-Unis qui ont même arraché ce territoire à la Colombie pour qu'il devienne un État sous contrôle. Donc, c'est une vieille histoire et je n'ai pas l'impression que la crise de 2008, elle ait provoqué un quelconque changement dans les politiques de développement de ces pays.
Alors, justement, parlons de ce canal de Panama. C'est aujourd'hui quasiment 10% du PIB du pays, mais en fait, c'est plus du double si on considère l'ensemble des retombées du commerce maritime. Il avait été construit en 1904, un an après l'indépendance du pays. Une indépendance qui, par ailleurs, avait été obtenue grâce au soutien des Américains. Quelques jours plus tard, après l'indépendance, on avait signé un texte qui visait à vendre les droits d'exploitation et de construction du canal aux États-Unis. Comment est-ce que vous définiriez cette relation entre les États-Unis et le Panama? C'est quoi? C'est du partenariat? C'est une forme d'allégeance du second sur le premier?
Eh bien, comme vous l'avez dit, pendant près d'un siècle, on a eu en fait un territoire nord-américain au centre de l'Amérique, hein, parce que ce canal, il avait pour principal intérêt de faciliter le commerce entre côte est et côte ouest des États-Unis. Et puis, donc, vous avez à la fin du XXe siècle, hein, le traité Torrijos-Carter qui prévoit la dévolution du canal à l'État panaméen.
Signé en 1977, entré en vigueur en 2000.
Voilà, donc ça va faire bientôt 20 ans que le canal est revenu sous administration panaméenne.
Est-ce qu'il faut y voir la fin d'une forme d'ingérence des États-Unis sur le Panama?
Je pense que les formes d'ingérence des États-Unis dans la région ont changé de forme, mais pas forcément d'intention. C'est-à-dire que les États-Unis sont toujours attentifs à ce qui se passe en Amérique centrale, mais font davantage confiance aux Panaméens pour garantir la sécurité et le trafic dans ce canal.
Sébastien Velu, on le voit très bien, depuis donc très longtemps, les États-Unis considèrent que finalement cette Amérique centrale est son arrière-cour. On sait l'influence qu'a eu Washington en soutenant des mouvements rebelles, en installant, en soutenant des régimes qui leur étaient favorables. Et on a le sentiment quand même que cette influence des États-Unis leur a coûté cher et que peut-être que le développement économique et social de ces pays aurait pu être un autre finalement. Est-ce qu'on peut établir l'hypothèse, c'est une hypothèse qu'on entend régulièrement et en particulier dans ces pays-là, l'hypothèse selon laquelle les États-Unis ont volontairement empêché d'une certaine manière ces États de se développer en cherchant finalement à les rendre relativement précaires? Et si c'est le cas, quelle en serait la raison?
Les raisons peuvent avoir changé d'une part, et d'autre part, ça ne s'exprime pas de la même façon dans tous les pays de la région. Il faut bien voir que pendant la période de la guerre froide, pour les États-Unis, il y a un enjeu de contrôle politique de cette région. Face à l'expérience cubaine qui est en train de se développer, eh bien, les États-Unis cherchent à avoir des alliés dans cette région. Il y a un voyage du président Kennedy au début des années 60 dans l'Amérique centrale qui est particulièrement instructif parce que tous les dirigeants viennent en quelque sorte rendre hommage à ce jeune président américain et qui scellent vraiment leur attachement aux États-Unis, y compris de régimes extrêmement peu recommandables, comme celui des Somoza au Nicaragua. Par la suite, comme vous l'avez rappelé, au moment de la révolution sandiniste au Nicaragua, les États-Unis financent les contrats qui vont essayer de mettre en place une contre-révolution. Donc on peut dire que les États-Unis n'ont pas véritablement aidé au développement du pays. Et puis, vous avez à côté le Costa Rica qui, dès le 19e siècle, en quelque sorte, devient un terrain d'exploration, un terrain de connaissance et un terrain d'aventure qu'on appelle aujourd'hui tourisme pour les Américains. Et finalement, la relation privilégiée entre les États-Unis et le Costa Rica, elle se noue assez tôt et elle permet aussi au Costa Rica de se positionner sur un certain nombre d'activités plus propice, je pense, à son développement.
Alors, il faut peut-être rappeler à propos de ce canal de Panama qu'il a été récemment élargi, il a été inauguré. comme un symbole d'ailleurs, c'est un porte-conteneur chinois qui le premier a utilisé ce canal élargi. Sauf que, et c'est là où je voudrais en venir, il existe aussi un nouveau projet de canal du côté du Nicaragua. C'est un consortium chinois qui est derrière le projet. Visiblement, les Chinois voudraient disposer de leur propre passage. Et le président Daniel Ortega, du Front Sandiniste de Libération Nationale dont on parlait hier, soutient évidemment ce projet.
Avec les revenus que ce genre de projet va générer, nous aurons de grandes possibilités d'éradiquer totalement la pauvreté et l'extrême pauvreté.
Il se trouve ici avec nous notre frère Wang Ying. Avec ce projet, nous allons changer le monde et apporter plus de bonheur et de joie aux habitants de cette planète.
Nous voulons que les Chinois partent. Nous ne sommes pas contre le développement économique du pays. Mais ce qu'ils font ici, nous ne le permettrons pas.
Il faudrait extraire des millions et des millions de tonnes de sédiments pour creuser le canal. Boue et sable, principalement. Cela signifie que la qualité de l'eau va se perdre. Elle ne sera plus potable. La première fois qu'ils ont évoqué le projet, le secrétaire du président m'a appelé. On va faire ce projet, ça sera comme ça, comme ça et comme ça. Moi, je lui ai immédiatement répondu, écoutez, il va y avoir beaucoup de problèmes. Je lui ai énuméré les inconvénients. Et je lui ai dit, franchement, ça ne semble pas faisable, ça sera dangereux pour l'environnement. Ils ne m'ont plus jamais recontacté après ça.
Eh oui, on entend cette opinion nicaraguayenne extrêmement inquiet vis-à-vis de ce projet, Sébastien Velu, inquiet à cause des conséquences environnementales, inquiet de par les déplacements de population que tout cela engendre. Peut-être un commentaire sur ce point-là, justement sur cette inquiétude. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est un aspect assez positif de la chose, parce qu'on voit que la société civile est très mobilisée sur cette question-là, mais on y reviendra. Peut-être une réaction sur ce point. Et puis, l'autre question que je voudrais vous poser, Sébastien Velu, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut voir ce canal du Nicaragua, qui n'est pas encore réalisé, mais comme une sorte de cheval de Troie par lequel la Chine organiserait finalement son arrivée dans cet espace qui, historiquement, on vient de le dire, est sous influence américaine, états-unienne.
Alors, sur le canal, le projet du canal de Nicaragua, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, probablement, de projets qu'on voit apparaître dans cette région. Depuis le Mexique, depuis le sud de Mexique, ce qu'on appelle l'isthme de Tehuantepec jusqu'au Panama, on a rêvé, imaginé, parfois réalisé des passages interocéaniques, souvent d'ailleurs des passages ferroviaires. On transporte les conteneurs d'un bateau sur le train et d'un côté et inversement à l'arrivée. Et donc ce projet nicaraguayen est un projet de plus de traversée de l'isthme. Alors, dans le cas particulier du Nicaragua, c'est sûr qu'il y a à la fois à l'échelle régionale une rivalité entre le Nicaragua et le Costa Rica, qui ont des cultures politiques extrêmement différentes, qui sont les meilleurs ennemis du monde, si on veut, tout en étant évidemment très proches. Et d'un côté, un régime au Costa Rica plus très proche des États-Unis historiquement, et puis au Nicaragua, un régime plus proche de la Russie, et puis plus proche de la Chine avec les projets qu'on vient d'évoquer. Maintenant, il est bien évident que ce type de grands travaux, il a des impacts environnementaux considérables, et des impacts sur la vie des gens, c'est inévitable. Que la procédure qui l'autorise n'est certainement pas totalement transparente, et qu'on comprend les inquiétudes qui se sont exprimées.
Dans quelle mesure est-ce que... Parce que, évidemment, le Nicaragua, c'est un pays extrêmement pauvre, peut-être le plus pauvre de l'Amérique centrale. C'est ce que disait en tout cas la Banque mondiale assez récemment. Dans quelle mesure est-ce que ce nouveau projet pourrait être un outil par lequel on lutterait efficacement contre la pauvreté? C'est l'argument qui a été présenté par Daniel Ortega.
C'est ce qu'on entend. Ça me paraît totalement illusoire que ce soit un argument pour lutter contre la pauvreté.
Pour quelle raison?
Parce que, d'abord, c'est un projet qui, s'il se réalise, se réalisera à très long terme. Que, deuxièmement, la question n'est pas tant de savoir si on va faire le projet, mais après, comment on va en partager les revenus. Et cela me paraît très, très peu clair. Et pour tout dire, moi, je crois fort peu à la réalisation effective de ce canal du Nicaragua.
Vous pensez qu'il ne verra pas le jour ?
Je pense qu'il ne verra pas le jour, précisément parce qu'on a eu l'élargissement du canal de Panama, et du coup on a une offre de transport qui est quand même considérable dans cette région.
Tout dernier mot peut-être sur le Nicaragua. On le disait hier, Daniel Ortega a été réélu en novembre dernier avec plus de 70% des suffrages. Il est au pouvoir depuis plus de 10 ans, même dans le paysage politique depuis bien avant, depuis la révolution sandiniste. Quel est son bilan économique à cet homme ?
Écoutez, ce qui est étonnant quand on se rend au Nicaragua, c'est qu'on se rend compte que les sandinistes, qui avaient été donc les tenants d'une révolution redistributrice inspirée d'idées de gauche, aujourd'hui gardent un certain discours redistributif, mais mettent en place un régime qui est clientéliste dans ses pratiques et qui finalement va introduire le capitalisme beaucoup plus fortement dans l'économie nicaraguayenne. En notamment autour de quelques projets immobiliers qui ont été lancés.
Le Costa Rica, Sébastien, pardon, Velu.
C'est pas Daniel Ortega.
Pardon, pas Daniel Ortega. Le Costa Rica, c'est vrai qu'il est souvent présenté comme le bon élève un peu de cette Amérique centrale. Et d'ailleurs, il y a des raisons, puisqu'il était dans les années 80 un pays extrêmement pauvre. Je crois qu'une pauvreté, à peu près la moitié de la population était sous le seuil de pauvreté. C'est aujourd'hui beaucoup mieux. Quel est le secret du Costa Rica ? Est-ce que c'est une volonté politique ou est-ce que c'est un contexte social, géographique peut-être, spécifique ?
La volonté politique n'est que l'expression d'un contexte social. Au Costa Rica, ce qu'on lit, même dans des textes anciens, c'est qu'il y a une petite paysannerie propriétaire et donc une société finalement plus égalitaire que dans les autres pays où c'est le grand domaine qui est la règle, comme d'ailleurs dans d'autres régions d'Amérique latine. Donc il y a une base sociale qui est différente au Costa Rica. Le deuxième point, on en a parlé, c'est que le Costa Rica, plutôt de se demander si c'est bien ou pas d'être dépendant des États-Unis, accepte le fait qu'il est dépendant des États-Unis et cherche à en tirer profit. Alors c'est une stratégie qu'on pourra qualifier d'un peu de cynique peut-être, mais qui en tout cas porte ses fruits. Et on le voit par exemple dans le fait que la pratique de l'anglais est beaucoup plus large au Costa Rica que dans les pays de la région. Et de ce fait, cela permet au Costa Rica d'attirer des investissements des États-Unis. Un des investissements importants, c'était un des investissements d'Intel pour fabriquer des microprocesseurs, qui a fonctionné entre 1997 et 2014. Et puis, surtout, le tourisme qui est venu vraiment dynamiser l'économie costaricienne.
Alors, plusieurs choses. Sur la high-tech, c'est vrai que c'est le premier pays exportateur d'Amérique latine dans le domaine des industries de la high-tech. Vous avez dit effectivement qu'à la fin des années 90, Intel, et on l'entendait tout à l'heure pour introduire cette émission, est arrivé au Costa Rica à la fin des années 90. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris très concrètement pour les attirer, ces investisseurs ?
Je pense qu'ils ont surtout offert des conditions excellentes d'installation en termes de formation de la main-d'œuvre. Il faut rappeler quand même que l'Université du Costa Rica est la meilleure de la région et de loin, qu'il y a un réseau d'infrastructures dans la capitale qui est correct et que les conditions, si vous voulez, de sécurité juridique étaient également réunies, le tout dans un contexte quand même de bas coût de des salaires. Du coup, bon, ça fait un cocktail assez attractif pour une entreprise venant des États-Unis, dont on peut rappeler toutefois qu'elle a, en 2014, décidé de fermer ses usines.
Absolument.
Donc la fabrication a été déplacée vers l'Asie, mais elle a installé au Costa Rica un laboratoire de recherche de haut niveau.
Mais enfin, en 2014, c'est quand même 1500 emplois sur les 3000 que comptait à l'époque Intel sur le territoire qui sont supprimés quasiment du jour au lendemain. Donc on voit que là aussi, ça a un coût. Vous disiez effectivement que peut-être cyniquement, ils s'appuient justement sur cette dépendance des États-Unis et en même temps, ils en payent aussi les conséquences.
Ah ben forcément, oui. Et le fait d'avoir un seul partenaire, il est toujours un facteur de fragilité.
La question du tourisme, parce qu'effectivement, le Costa Rica est très connu maintenant pour son dynamisme sur ce secteur du tourisme, et en particulier sur l'écotourisme. C'est devenu vraiment l'un des piliers de son économie. Ça représente quoi ? Quasiment 10%, je crois, du PIB, quasiment 15% des emplois directs et indirects. Est-ce que ce tourisme peut suffire à assurer le développement économique et social du pays, selon vous ?
Ce qui est assez remarquable dans le tourisme costaricien, c'est que c'est un tourisme qui a été mis en place en favorisant l'installation d'une série de petites et moyennes entreprises du tourisme. Vous avez dans les Caraïbes un modèle de tourisme, notamment en République dominicaine, qui est fondé sur les gros complexes hôteliers, avec finalement peu de retombées locales, sinon en termes d'emploi. Et au Costa Rica, on a un tourisme qui irrigue beaucoup plus la société, les territoires ruraux et littoraux. Et du coup, ça, c'est un vrai facteur de développement. Actuellement, il y a à peu près 2 millions de touristes par an qui arrivent au Costa Rica, dans ce petit pays. Donc, c'est quand même tout à fait considérable.
Majoritairement des Américains, des États-Unis, une fois encore.
Majoritairement en provenance des États-Unis, qui viennent y trouver eh bien, la nature tropicale dans des conditions satisfaisantes de sécurité.
Du Mexique au Panama, l'autre Amérique, c'est notre série cette semaine dans Culture Monde. Aujourd'hui, de l'agriculture au tourisme, consolider les économies. Sébastien Veluc est géographe et notre invité ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
On va s'intéresser désormais au Honduras pour retrouver donc Sébastien Hardy, qui est en ce moment au Guatemala, qui est géographe, chargé de recherche au CEMCA du Guatemala, le Centre d'études mexicaines et centra-américaines. Vous avez réalisé, Sébastien Hardy, tout un travail autour de la ville de Choluteca, qui est une ville d'un peu plus de 100 000 habitants, la plus grande de la région sud du Honduras. C'est une des villes qui, ces dernières années, a connu une très forte augmentation de sa population et de son économie. Vous aviez d'ailleurs écrit un article à ce sujet. Choluteca, ville hondurienne du système monde, point d'interrogation. Vous expliquer qu'au cœur de ce développement se trouve le secteur agro-industriel. En fait, ça fait très longtemps que le Honduras, c'est ce que vous dites Sébastien Hardy dans votre article, a organisé son activité autour de la production agroalimentaire. Déjà à la fin du 19e siècle, le Honduras s'est construit un modèle agricole essentiellement appuyé pour le marché mondial, Sébastien Hardy.
Oui, à partir du 19e siècle, dans le nord-est du pays, il y a tout un ensemble de territoires qui sont offerts en fait par l'État hondurien à des grands entrepreneurs nord-américains pour pouvoir développer l'agriculture autour de la production, l'exportation de bananes, d'ananas, de fruits essentiellement, en échange de l'obligation pour ces entreprises de développer les infrastructures et notamment ferroviaires. Et ensuite, cette activité s'est développée dans d'autres parties du territoire, et notamment aujourd'hui vers le sud-ouest du pays autour de la région de Choluteca, qui est une région frontalière entre le Salvador et le Nicaragua.
Alors justement, cette ville en particulier, Choluteca, ville donc du sud du pays, autour de quelle activité s'est-elle construite ces dernières années justement? Parce qu'elle s'est beaucoup, beaucoup développée ces dernières années, ces deux dernières décennies. Autour de quelle activité précisément?
C'était une zone de grand élevage extensif, et en fait, ces dernières décennies, pour des raisons essentiellement climatiques et topographiques, la région a développé un système agricole autour de l'élevage de crevettes et la production de fruits de contre-saison, donc destinés à l'exportation pour les marchés américains et européens. La production de crevettes, c'est une production qui est assez particulière, puisqu'au départ, elle prenait avantage de la proximité avec la mer, et donc notamment de ces zones de mangroves où les crevettes se reproduisent. Simplement, la ressource est un petit peu tarie, et donc aujourd'hui, on a des fermes qui sont des fermes hors sol, complètement déconnectées en fait du littoral, avec des larves de crevettes qui sont importées essentiellement des États-Unis, mais qui sont développées, qui grandissent dans ces fermes hors sol ici autour de Choluteca.
Et alors, quels sont les bénéfices économiques justement de ces nouvelles activités, par exemple celles liées à la crevette, concrètement en termes de revenus pour l'ensemble du pays, et puis peut-être aussi en termes d'emploi pour les locaux?
Il faut voir les choses sur divers plans. Ça crée effectivement de l'emploi, mais c'est de l'emploi qui est quand même relativement mal payé pour l'ensemble des travailleurs qui sont en fait des petits propriétaires terriens qui progressivement sont amenés à quitter leurs terres pour aller s'employer comme main d'œuvre dans ces entreprises. Pour l'ensemble du pays, c'est plutôt intéressant puisque les revenus de vente de crevettes ou de vente de fruits en fait induisent des revenus relativement importants pour l'ensemble du pays. Simplement, ces revenus sont quand même captés essentiellement par quelques grandes familles qui sont les familles qui sont propriétaires ou copropriétaires de ces entreprises, donc qui, elles, sont celles qui reçoivent la plus grosse valeur ajoutée à ce développement de produits agricoles nouveaux, on va dire.
Oui, parce qu'il faut expliquer, Sébastien Hardy, qu'en réalité, il y a ces grandes familles, mais que derrière ces grandes familles, il y a aussi des investissements étrangers et que, d'une certaine manière, les bénéfices qui sont tirés de tout ça ne vont pas tous directement dans les caisses de l'État.
Oui, alors dans les caisses de l'État, c'est essentiellement par les impôts à l'exportation, mais finalement, c'est pas grand-chose. L'essentiel des revenus est donc capté par ces grandes familles. Il faut voir que ces grandes familles, elles ont un modèle de développement qui est très traditionnel, donc autour de l'élevage extensif. Pour pouvoir développer ces activités, les entreprises étrangères, pour pouvoir investir, ont dû s'allier avec ces grandes familles. Ces grandes familles, grosso modo, ont donné le terrain et puis on sert de nom à ces entreprises. Et en échange, donc elles reçoivent les capitaux qui ont, et surtout la technologie qui ont permis le développement de ces nouvelles activités agricoles. Il faut voir, par exemple, pour la production de fruits, c'est tout un système d'irrigation compte goutte. Donc, c'est des systèmes qui n'étaient pas du tout traditionnels dans la région. Et pour les crevettes, on est, je vous dis, dans de l'élevage hors sol. Donc, c'est pareil, c'est pas du tout un système de production traditionnel dans la région. Oui. Donc, il y a eu un accord entre ces grandes familles et les investisseurs étrangers pour pouvoir développer ces activités. Accord qui bénéficie très largement à ces grandes familles, puisque ça leur permet de se moderniser et de rester dans ce rang de grandes familles riches du pays.
Et le pays ne pouvait pas se passer de ces investissements étrangers en justement mettant sur la table des fonds pour permettre justement le développement de ces moyens nécessaires à cette activité ?
Non, il faut avoir l'esprit qu'en Amérique centrale, les États sont des États relativement pauvres. Pauvres parce que tout simplement, il n'y a pas du tout une culture de développement de l'appareil d'État et donc de captation d'impôts pour faire fonctionner cet appareil d'État. Donc moins l'État est développé et moins il est endetté, mieux c'est considéré. Donc typiquement, les États centra-américains, quels qu'ils soient, n'ont pas vraiment de fonds publics à mettre sur la table pour développer des programmes relativement indépendants, aussi bien dans le domaine agricole que dans d'autres domaines. Mmh. C'est pas du tout dans la culture des sociétés centra-américaines. Mmh.
Encore une dernière question, si vous voulez bien, Sébastien Hardy. Le Guatemala est une économie très importante dans cette région centra-américaine. On le dit depuis le début de cette émission, l'essentiel de cette économie est tourné vers l'extérieur. Je crois que pour le Guatemala, c'est 40% des exportations qui sont à destination des États-Unis. Comment est-ce qu'on réagit à l'arrivée du protectionniste Donald Trump? Est-ce que c'est quelque chose qui inquiète? Comment le ressentez-vous, vous, depuis le Guatemala?
On va dire qu'en fait, ce qui inquiète le plus, c'est essentiellement, peut-être pas dans le sens dans lequel on s'y attend le plus, le Guatemala est très très dépendant de ce qu'on appelle les remises. C'est-à-dire que c'est l'argent que les travailleurs guatémaltèques, migrants aux États-Unis, renvoient au Guatemala chaque mois. Ces remises, ça représente 10% du PIB du pays, donc c'est quand même très important. Et ces 10% sont très largement réinvestis dans la consommation locale. Donc ce qui fait peur essentiellement aux Guatémaltèques, c'est que la politique de l'administration américaine actuelle limite ces retours d'argent, ces remises d'argent, soit par la déportation de travailleurs guatémaltèques vers le Guatemala, donc qui tarirait un petit peu cette source de fonds qui est très très importante. En revanche, pour les entrepreneurs, il y a plutôt des aspects assez positifs, par exemple le fait que les industries textiles pourrait à nouveau bénéficier en fait d'un dynamisme lié à la volonté de l'administration américaine de moins travailler avec l'Asie. Donc selon les secteurs, en fait, l'inquiétude est très 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 différente. Ça peut être très positif pour certains secteurs, l'industrie textile en particulier. Pour d'autres secteurs, l'économie, on va dire, de consommation locale, c'est plutôt négatif.
Mais au bilan, on se réjouit ou on s'inquiète ?
Je pense que selon les acteurs, vous allez avoir des réponses très 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 différentes. Ouais. C'est très partagé et on ne peut pas réduire la réponse à c'est négatif ou c'est positif. Ça dépend vraiment vraiment des positions de chacun des acteurs.
Voilà, Sébastien Hardy, depuis le Guatemala, géographe chargé de recherche au Centre d'études mexicaines et centra-américaines. Sébastien Velu, je m'excuse pour les auditeurs, c'est vrai que la connexion peut-être n'était pas excellente. Ça a été compliqué d'ailleurs, hein, les coulisses de l'émission, très compliqué de faire une liaison téléphonique avec le Guatemala, avec Sébastien Hardy, et en fixe et en mobile. On est finalement passé par une connexion Internet, mais ça participe aussi peut-être finalement de ces difficultés à développer le pays. En tout cas, c'en est l'un des signes, Sébastien Velus, quelque chose que vous connaissez parfaitement, cette difficulté à joindre justement les gens qui sont dans ces pays-là.
En tout cas, on entend bien que les réseaux de communication ne sont pas à la hauteur et pas les mêmes dans tous les pays de la région. Et que si on avait fait une liaison avec le Panama, on n'aurait pas eu de problème pour se parler. Et donc on voit bien qu'il y a quand même des grosses disparités internes en Amérique centrale, des disparités d'équipement et du coup les conditions de développement sont quand même très différentes.
Peut-être encore un mot sur la question de l'agriculture, Sébastien Velu, avant d'en venir à l'intégration régionale. Parce que c'est vrai qu'en Amérique centrale, l'agriculture, c'est un secteur important, même central, dans tous ces pays, au Nicaragua, au Honduras, au Salvador. C'est important à la fois en termes de PIB. Par exemple, pour le Nicaragua, c'est quasiment 30% du PIB. Mais c'est aussi très important en termes d'emploi. Je crois qu'en gros, c'est à peu près un tiers des emplois qui sont liés à l'agriculture. Sauf que dans ces pays, on a toujours échoué finalement à réformer le système agraire et on a maintenu ce modèle avec d'un côté d'immenses exploitations, on l'entendait d'ailleurs un petit peu avec Sébastien Hardy, possédées par des grandes familles, et puis ces petites surfaces qui finalement ne permettent pas d'aller au-delà du marché local et de précisément envoyer d'une certaine manière cette production à l'extérieur et en tirer des bénéfices, des avantages. Au fond, pourquoi cet échec à réformer les systèmes agraires dans ces pays-là?
Alors, il faut d'abord rappeler par rapport à ces questions agricoles que il y a aussi des dynamiques démographiques différentes et que le Guatemala, notamment, c'est un pays qui est très peuplé avec un taux de fécondité encore élevé. C'est le cas aussi au Salvador. Ça veut dire que la population augmente rapidement, les besoins alimentaires augmentent rapidement. Donc c'est une première variable à prendre en compte hein, par rapport à ce problème agricole. Deuxième question, les réformes agraires. Alors, il y a eu des réformes agraires, il y en a eu au Nicaragua, il y a eu une tentative de réforme agraire dans un sens, c'est-à-dire sous les sandinistes, on a essayé de faire des propriétés collectives. Et puis après, il y a une contre-réforme agraire. Après le départ des sandinistes, on a continué au contraire privatisé. Donc il y a des va-et-vient hein, dans ces agricultures. Et troisième élément, il ne faut pas non plus oublier qu'une partie de ces populations sont des populations indigènes, notamment en Guatemala, notamment en Honduras, avec finalement des modes de vie différents et finalement aussi assez peu d'intérêt de la part des États pour ces populations indigènes. Donc le cocktail est assez compliqué. Et la conséquence de cela, c'est la migration finalement, hein, parce que on le voit bien, les économies centra-américaines, elles sont faiblement industrialisées, elles absorbent assez peu de main-d'œuvre dans l'industrie. Leur agriculture, hormis certains secteurs comme ceux dont on vient de parler, autour de quelques produits d'exportation ou le café dans d'autres régions, elles sont assez peu dynamiques. Et en même temps, la population augmente. Donc la solution qui reste, c'est la migration. Et ça, c'est vraiment un point très caractéristique de toute cette Amérique centrale, que ce départ continue vers le nord, vers les États-Unis. Et comme le mentionnait Sébastien Hardy, la réception hein, des transferts des migrants qui finalement fait vivre en grande partie ces économies.
Vous avez raison d'évoquer cette question de la migration. On va dédier une des émissions de la série, ça sera jeudi je crois, à cette question effectivement de la migration qui organise en réalité l'ensemble de ces sociétés. La question de l'intégration régionale, Sébastien Velu, on voit bien que ces différents pays d'Amérique centrale ont parfaitement conscience de leur fragilité face à des voisins bien plus gros, bien plus fort sur le plan économique, sur le plan démographique, même si vous nous disiez que sur le plan démographique, ça pose aussi des soucis pour ces pays-là. Mais au fond, pourquoi ces pays d'Amérique centrale, n'ont pas mis en place un projet d'intégration politique et économique? Et là, vous allez me répondre qu'ils ont essayé, Sébastien Velu.
Ils l'ont fait. Il y a plusieurs tentatives hein, de mettre en place des mécanismes d'intégration. On peut citer le marché commun centra-américain qui est mis en œuvre dans la continuité du marché commun européen. Et puis, plus tardivement, le SICA, le système d'intégration centra-américain, lequel a plusieurs branches, une branche éducative, une branche sociale. Du coup, il y a bien des instances d'intégration centra-américaine. Le problème, c'est que, en dépit de ces instances, l'intégration se fait peu.
Pour quelle raison?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Je pense que fondamentalement, il y a des positions politiques extrêmement différentes entre les différents pays, que le Nicaragua pense pas du tout comme le Costa Rica, lequel d'ailleurs s'est mis en retrait du système d'intégration centra-américain. Donc, des positions et des cultures politiques très différentes qui fait qu'il est difficile de s'entendre. Que deuxième point, les économies, ça c'est un problème qu'on va retrouver aussi en Amérique latine, sont faiblement complémentaires. Mais du coup, si tout le monde produit des bananes, il n'y a pas grand intérêt à faire un marché commun de la banane à l'échelle centra-américaine quand les clients sont à l'extérieur. Du coup, faible intérêt à faire de l'intégration économique. peu d'investissements pour cette intégration, c'est-à-dire que même si la région n'est pas très grande, y circuler est compliqué, hein, on circule assez mal d'un pays à l'autre, le passage des frontières est long, les routes sont de mauvaise qualité, donc insuffisance d'infrastructures d'intégration, et puis des projets finalement de sociétés extrêmement différents entre ces pays. Du coup, le SICA hein, devient une espèce de forum où les pays se parlent, ce qui est déjà bien, mais pas un forum où ils s'intègrent.
Et ils se parlent de quoi ?
Il parle.
Quel intérêt tout ça finalement, s'il n'y a pas d'intégration à la fin?
En tout cas.
Si ça ne sert pas les économies de ces États.
Ça peut servir à faire baisser les tensions géopolitiques entre ces États, parce qu'il y en a. Mm-hmm. Ça peut servir dans certains domaines, par exemple, ça sert un peu dans le domaine éducatif.
Au-delà de la question économique, ce point de l'intégration régionale, elle soulève une autre question qui est celle de l'identité centra-américaine. Est-ce qu'il existe une identité centra-américaine qui serait différente, évidemment, de l'identité régionale latine? Et si c'est le cas, quels seraient précisément les éléments constitutifs de cette identité?
Alors, moi,
quelle histoire, quelle figure?
J'ai du mal à définir les identités en termes essentiels, mais d'abord, je pense que les identités nationales sont très fortes par-delà ou en deçà de l'identité, d'une éventuelle identité centra-américaine, que mes amis costariciens se revendiquent de ce modèle plus égalitaire, plus démocratique, et ils se pensent surtout différents de leurs voisins du Guatemala ou du Nicaragua. Mmh, mmh. Et je pense que c'est quand ces migrants arrivent aux États-Unis que là, ils sont englobés dans une seule identité commune qui est celle justement d'être centra-américain.
Oui, bien sûr, c'est toujours comme ça.
Et donc, pas forcément positivement apprécié.
Dans un parcours migratoire, on reconstruit d'une certaine manière son identité. Mais alors précisément, ces migrants, quand ils arrivent ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou même peut-être dans la partie vraiment sud-américaine, est-ce qu'ils se revendiquent comme étant centra-américains? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend?
Très peu. Non, c'est pas une identité revendiquée. Il y a eu des moments d'intégration au 19e siècle, hein, avec la tentative de Morazán de fédérer les républiques de centra-américaines, mais ça durait finalement assez peu et la fragmentation est revenue.
Et est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez qu'à terme, ces États centra-américains pourraient aller vers plus d'intégration politique, économique?
Les échanges que j'ai avec différents partenaires centra-américains me font pas penser qu'on va véritablement dans le chemin de l'intégration, ce que je trouve regrettable, mais parce que les positions nationales sont encore trop fortement exprimées et que les différences se sont creusées. Quel est l'intérêt de Panama à s'intégrer davantage avec ses voisins? Je ne le sais pas. Et puis on voit bien que quand on veut faire quelque chose en Amérique latine, chaque pays cherche à attirer l'investissement, l'innovation, et il n'y a pas de réflexion d'ensemble sur comment on pourrait se présenter sur la scène internationale.
Oui, donc il y a encore du travail de ce point de vue-là. On va accueillir une nouvelle invitée, Lucille Medina. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'université de Montpellier 3, une spécialiste de cette Amérique centrale. On va parler peut-être du modèle extractiviste, parce qu'un peu partout dans la région, on voit des sociétés civiles qui se mobilisent contre des projets. On l'entendait tout à l'heure avec le nouveau projet du canal du Nicaragua, qui, en tout cas, Sébastien Velu nous disait, probablement, il ne verra jamais le jour, mais en tout cas, il se trouve que la mobilisation, elle, est bel et bien là. On a des mobilisations autour de barrages, d'exploitations minières, du Honduras ou du Guatemala. Au Costa Rica, on a eu, par exemple, cette société canadienne qui voulait exploiter une mine d'or, ce qui a causé une très forte mobilisation là aussi. On a eu l'année dernière au Honduras, on en parlait un tout petit peu hier, cette militante écologiste Berta Cáceres Flores qui a été assassinée chez elle. Sa famille n'a cessé de répéter que les responsables sont, je les cite, des groupes industriels en connivence avec le gouvernement. On voit que ce modèle, Lucille Medina, qu'on appelle le modèle extractiviste, qui était prôné jusqu'ici, est en train d'être totalement remis en cause par des citoyens qui désormais se mobilisent et ont ce projet d'influer véritablement sur le modèle économique de développement de ces pays, Lucille Medina.
Oui, c'est-à-dire que le modèle extractiviste n'est pas récent en Amérique centrale, parce qu'on peut repenser aux compagnies bananières déjà implantées de manière très ancienne et connue avec la United Fruit Company, par exemple. Ce qu'il y a eu, c'est que il y a eu un accroissement de ce type de développement, une intensification d'une exploitation massive de la nature, donc du sol, du sous-sol, de l'eau, et qui a conduit effectivement, dans les dernières années, à davantage de résistance face à ce modèle qui est un modèle prédateur de ressources, hein, qui exclut toute redistribution des ressources à la société locale, et donc des résistances et des oppositions, des mobilisations de la part à la fois de groupes indigènes, de communautés paysannes, et puis une articulation aussi avec des groupes écologistes, des chercheurs, voilà, qui se mobilisent effectivement pour essayer de faire front à ce type d'exploitation des ressources.
Mais vous dites un modèle prédateur de ressources, Lucile Medina. Essayons de voir les choses de façon un peu objective, parce qu'on se dit qu'a priori, un pays qui a des richesses naturelles, il aura tort finalement de ne pas chercher à les exploiter pour qu'il en fasse profiter sa population. Et finalement, c'est normalement l'objectif de l'extractivisme, même si ça ne fonctionne pas toujours. Pourquoi ce principe-là précisément, ce modèle-là ne fonctionne pas? Et là, on est au-delà de l'Amérique centrale en réalité, c'est toute l'Amérique latine qui est concernée.
Mais c'est justement pour ça que les gouvernements aujourd'hui participent à favoriser les conditions de mise en œuvre de tels projets, hein, et qu'on parle aujourd'hui de néo-extractivisme. C'est-à-dire avec une participation des gouvernements qui y voient justement l'intérêt aujourd'hui de sortir les pays de la pauvreté. C'est le discours qui est prôné par les États. Et donc, on peut supposer qu'il y a aussi des affaires de corruption dessous. Mais il y a effectivement la réalité que ce genre de grands projets de barrages, de grandes plantations agricoles ou de mines, d'exploitation des hydrocarbures, effectivement a un effet positif sur le PIB d'un pays. Donc, il y a un développement, effectivement, qui est général. En revanche, la question qu'il faut se poser, c'est la question de la redistribution après de ces retombées au niveau de la population locale. Et là, effectivement, on a un modèle qui est très peu redistributif. Et au contraire, qui impacte de manière négative les populations locales.
Qu'est-ce que ça change très concrètement, Lucile Medina, quand les États se mêlent justement un peu de ces affaires-là? C'est-à-dire, je voudrais comprendre vraiment les différences d'effet entre le modèle qu'on appelle extractiviste et néo-extractiviste, où vous nous le disiez, justement, l'État interfère dans ces modèles prédateurs de ressources, comme vous les qualifiez tout à l'heure.
Disons que l'effet qu'on pourrait en attendre du fait d'un encadrement et d'un accompagnement de l'État, c'est qu'il y ait une partie de la rente qui revienne quand même dans la caisse des États et puisse participer. C'est aussi le discours des États centra-américains et latino-américains en général, puisse participer à entreprendre des modèles, enfin des dispositifs sociaux, éducatifs, donc à davantage dépenser sur les questions sociales. Voilà, donc on pourrait imaginer que effectivement l'introduction de l'État en tant qu'acteur va permettre une meilleure redistribution et va permettre de redistribuer la rente de manière plus équitable. Mais en fait, ça a un impact très limité. Donc au niveau du fonctionnement, on a un fonctionnement qui est assez identique.
Sébastien Velu, vous restez avec nous, hein, Lucile Medina. Sébastien Velu, l'intervention des États finalement ne change pas grand-chose à ce modèle extractiviste. Quand on regarde par exemple le cas de Berta Cáceres, qui était donc assassinée, dont je parlais, son assassinat, il est lié à son opposition à des barrages hydroélectriques qui prolifèrent en Amérique centrale. C'est-à-dire que sous couvert finalement de transition énergétique, on a des bailleurs de fonds qui se montrent assez peu regardants, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la nature exacte des projets et surtout sur les conséquences environnementales et sociales de ces projets. Est-ce que lorsque les États justement essayent d'améliorer les choses, d'assurer une meilleure répartition des bénéfices de ces projets-là, est-ce que les choses changent ou est-ce que finalement on se rend compte que tout ça est vain?
Comme le disait tout à l'heure Sébastien Hardy, le problème en Amérique centrale, c'est la faiblesse de ces États, et il le rappelait très bien, plus l'État est petit, mieux c'est. Du coup, il n'a pas vraiment les capacités à intervenir, il n'a pas la légitimité à prélever davantage d'impôts, par exemple, pour faire davantage de redistribution, Et dans bien des pays, il est finalement contrôlé par des groupes assez petits. Du coup, je crains qu'on ne puisse pas véritablement faire confiance à l'État pour établir des équilibres en Amérique centrale.
Mais par exemple, sur ce cas-là, ce qui est étonnant, c'est que tous ces barrages qui sont très contestés, ils font partie d'un programme global, plus large, de développement de la région. C'est un projet qui s'appelle Mesoamérica, qui avait pour but de lutter contre les inégalités et de... C'est vrai en libéralisant les échanges, mais avec cet objectif de promouvoir un marché électrique régional. Est-ce qu'au moins la multiplication de ces barrages électriques a eu cet effet de diminuer la pauvreté, de donner un accès à l'électricité, peut-être même de diminuer le prix de cette électricité ?
Pas à ma connaissance. Ce qu'on voit par contre dans tous les pays, c'est une croissance de la demande énergétique qui est liée à ces projets industriels. Et dans toute l'Amérique latine, la réalisation de grandes infrastructures de production énergétique, elle est d'abord liée à la croissance économique et à la demande industrielle ou minière pour l'énergie. Et puis, on explique que c'est en fait pour le développement social. Mais la motivation principale, c'est qu'il y a une demande du côté des activités économiques productives. Et puis, l'autre demande, c'est un point, je crois, qu'il ne faut pas négliger, c'est la demande urbaine aussi, qui est liée à la croissance de la population et à la consommation par la classe moyenne d'un certain nombre d'automobiles, d'électroménagers, et du coup, d'une demande électrique qui augmente.
Lucille Medina.
Oui, enfin, par exemple, l'exemple du Costa Rica est très intéressant, parce que c'est un État qui est à la fois cité internationalement comme un État respectueux de l'environnement, qui promeut à l'échelle internationale une image verte et touristique. Et puis c'est
pas seulement sur le tourisme qui mise aussi, pas seulement sur le tourisme qui mise aussi sur l'électricité verte. Je mets l'expression entre parenthèses.
Mise sur les énergies vertes et qui justement, c'est pour ça que c'est très finalement duel après comme réflexion. Sur ces énergies vertes et sur les barrages, il y a eu en 2016 la mise en service du barrage du Reventason, qui est un des plus gros projets, enfin le plus gros projet de barrage en Amérique centrale, qui permet au Costa Rica d'être indépendant énergétiquement et d'avoir 100% d'énergie propre en 2016. Et à côté de ça, c'est un projet qui a été très contesté par ses impacts sociaux et environnementaux. Donc il y a des aspects positifs et puis des aspects qui le sont moins à côté, de populations déplacées, d'environnement dégradé, etc.
Est-ce qu'il arrive que ces contestations justement aboutissent et que les manifestants aient gain de cause, Lucille Medina ?
En Amérique centrale, on a plutôt, malheureusement, une criminalisation des opposants et des opposants qui sont plutôt inquiétés, incarcérés ou qui disparaissent de manière pure et simple ou assassinés, comme vous l'avez cité avec le cas de Berta Cáceres l'année dernière, hein, de manière tragique. Donc une résistance qui a au risque aujourd'hui et qui a des effets limités. Maintenant, on peut citer, par exemple, dans le cas du Costa Rica, et peut-être parce que c'était au Costa Rica, un projet de mine d'or que promouvait une société canadienne qui, finalement, n'a pas vu le jour et qui, en justice, a été débouté. Donc, l'État a dû retirer la concession qu'il avait accordée à la mine d'or.
Mais c'est parce que c'est parce que c'est un contexte politique particulier que ça s'est passé au Costa Rica, mais ailleurs, c'est difficile.
Je pense qu'au Guatemala ou au Honduras, on n'aurait pas eu ce genre de... de développement positif de la situation.
Sébastien Velu, vous êtes du même avis ?
Oui, je pense qu'effectivement, d'une part, la qualité de la démocratie costaricienne permet davantage de débats, et que deuxièmement, dans un pays qui mise tout sur effectivement son image écologique, il y a des choix plus à faire par rapport aux mines d'or. Donc il n'y a pas que l'opposition de la société, il y a aussi vraiment la pertinence de ce type de projet. Et je voulais revenir juste un moment sur la question énergétique, mais la construction de barrages au Costa Rica a certes été critiquée, mais elle est peut-être un moindre mal par rapport à l'importation massive de carburants fossiles dont aurait besoin le Costa Rica s'il ne faisait pas de barrages. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Et cela n'empêche pas que le Costa Rica ne fasse pas tous les efforts qu'il pourrait faire pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Tout dernier mot, Lucille Medina, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, sur ce modèle extractiviste, il y a beaucoup de choses à dire en Amérique centrale, on n'en parle pas beaucoup, et surtout on a tendance à se focaliser sur la question des mines ou des hydrocarbures, et que l'Amérique centrale est touchée beaucoup aussi par ce qu'on appelle l'extractivisme agricole, et par le développement des plantations de palmes africaines, d'ananas, et que ça fait partie aussi sans doute du débat et de la réflexion à avoir.
Oui, c'est d'ailleurs quelque chose qui existe depuis très longtemps, cet extractivisme agricole, depuis bien avant cette question des barrages qu'on évoquait, Sébastien Velu, n'est-ce pas ? Vous nous le disiez tout à l'heure, ça fait déjà plus d'un siècle que tout ça existe.
Bien sûr, c'est comme ça de toute façon que ces régions rentrent dans le commerce du mondial à partir des agriculteurs d'exportation.
Merci beaucoup, Lucille Medina, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci.
Amanece mi ciudad y los sueños borrachos de olvido por el río se me van y se alejan con los silbidos fantasmas de olvidos de soledad. Amanece mi Buenos Aires y por las calles empedradas van soñando con la cancha los cartoneros al terminar.
Et un grand merci à vous, Sébastien Velu, de nous avoir accompagnés.
Merci.
Pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ces économies centra-américaines dont on parle peu, très peu. On est content de l'avoir fait. C'est difficile parce que c'est vrai qu'il y a assez peu d'intervenants, il y a assez peu de documentation. Vous-même, vous n'avez pas écrit encore sur ce sujet. Que faites-vous, Sébastien Velu ?
En tout cas, sur ce sujet, on peut recommander l'ouvrage de Philippe Létrillard sur l'Amérique centrale et les Caraïbes.
Ambassadeur au Nicaragua ?
Oui.
Qui a beaucoup interrogé cette question de l'intégration régionale, effectivement. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu ce matin. Je rappellerai que vous êtes géographe et puis professeur à l'Institut des hautes études en Amérique latine. De l'Amérique latine. Merci beaucoup, Sébastien.
Merci.
Nostálgicos corazones pintando rincones de soledad. Amanece allá por San Telmo, barracas y más allá. O en un terreno baldío cuando un pibe 10 lo viene a buscar. Gambeteando con la suerte, los que en un tango la vida dan. Los que le ponen el pecho, los que la buscan sin laburar.
On poursuivra bien sûr nos pérégrinations centra-américaines demain, mais pour l'heure, on retrouve Brice Couturier et son Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Brice qui nous parle de Donald Trump et de son arrivée à la présidence américaine. Donald Trump qui n'était pas le candidat des conservateurs traditionnels, mais plutôt celui des populistes. Cependant, son élection, Brice, à la présidence oblige le camp conservateur à redéfinir son programme. Hier, vous avez mentionné l'apparition d'une nouvelle revue intellectuelle, American Affairs Journal, qui tente de donner une légitimité intellectuelle, si on pourrait dire, à la présidence Trump.
Oui, et dans un long papier de présentation intitulé « Les anxiétés du conservateur », Gladden Papin, un jeune universitaire, présente la ligne éditoriale de cette nouvelle revue. Je cite le début de son article. « Le mouvement conservateur est dans un état d'anxiété compréhensible. Donald Trump n'était pas son candidat. » Mais, ajoute-t-il, les conservateurs ont été rassurés par la large victoire des républicains plus traditionnels au Congrès. « Il faudrait, poursuit-il, redéfinir les priorités de la politique américaine selon des lignes transpartisanes, sans pour autant renouer avec le centrisme, qui est le nom sous lequel ont été menées dans le passé des politiques néolibérales. » Référence manifeste à l'époque Bill Clinton. Bref, les conservateurs doivent comprendre ce qu'a représenté la victoire de Trump et travailler à ce que sa présidence soit un succès plutôt que de lui mettre des bâtons dans les roues comme le font les congressistes du Freedom Caucus, émanation du Tea Party. Car, et c'est la grande rupture avec ce que j'ai présenté hier, le fusionnisme, c'est que la mondialisation n'a plus la cote à droite. Elle est notamment accusée d'avoir sapé les communautés traditionnelles, locales ou familiales. Les Américains ont été encouragés à se déplacer à travers leur immense pays en fonction des opportunités d'emploi. C'est une tradition américaine, vous vous souvenez, Go West, Young Man. Mais cela a déstabilisé les familles et déraciné les individus. Alors la mondialisation est contestée par des citoyens ordinaires qui veulent le retour à des frontières protectrices, tant face aux importations que face à l'immigration. Ils réclament le retour de la souveraineté nationale. Ils se méfient des gouvernances et du management qui leur apparaissent comme des formes de dépolitisation rêvées par les prophètes de la fin de l'histoire. Ils voient derrière les traités de libre-échange la tentative de substituer à l'État-nation protecteur des structures régionales régulées par des juridictions non élues. Bref, comme les souverainistes européens, nos conservateurs pro-Trump veulent que la politique reprenne le pouvoir sur l'économie. Et il est plaisant de voir ressurgir de ce côté du spectre politique des analyses qu'on croirait tout droit sorties des œuvres de Karl Polanyi plutôt que de celles de son frère Michael qui lui était libéral. Bref, on a laissé filer les emplois industriels bien payés à l'étranger du fait des délocalisations, disent ces conservateurs trumpistes. Mais ce n'était pas une fatalité. Ce fut le résultat d'un choix politique effectué en faveur d'une économie des services organisée autour de la finance. C'est ce qu'a décrit très bien Judith Stein dans un livre très commenté dans ce milieu qui s'appelle Pivotal Decade. Pour elle, c'est des années 70 que datent les décisions fatales qui ont conduit à privilégier la lutte contre l'inflation à la croissance créatrice d'emplois et les services au détriment de l'industrie manufacturière. La conséquence de ces choix économiques a été une productivité qui ne progresse plus que faiblement aux États-Unis, que les élites ont cru pouvoir compenser par des investissements de plus en plus lourds dans l'enseignement supérieur.
Bref, il s'agit pour les conservateurs d'analyser les origines du succès de Trump et de bricoler aussi à son intention une idéologie susceptible de légitimer la politique qu'il s'apprête à mener.
Oui, les électeurs de Trump ne venaient pas tous de la droite, relève Gladden Papin, mais ils ont soutenu l'homme qui leur promettait de préserver leur pays. Alors cet électorat qui mêle la classe moyenne inquiète devant la stagnation de ses revenus et l'école bleue, les ouvriers exaspérés par les délocalisations, ressemble à celui qui a assuré la victoire du Brexit au Royaume-Uni. Les conservateurs américains ont intérêt à le comprendre s'ils ne veulent pas être balayés, ajoute-t-il. Ils ne peuvent pas continuer à s'accrocher à un programme qui tient à quelques recettes dépassées, telles que les réductions d'impôts ou les traités de libre-échange. De telles mesures, poursuit Gladden Papin, n'intéressent en réalité que les riches. Le nouveau clivage qui va structurer le champ politique ne passe plus entre la droite et la gauche, mais entre partisans d'un degré supplémentaire d'ouverture et partisans du retour à la souveraineté nationale. Ce que les succès de Trump, mais aussi de Sanders, poursuit l'éditorialiste de American Affairs Journal, ont révélé, c'est que la reprise économique tant vantée par l'administration Obama avait laissé derrière un grand nombre d'Américains. Ces politiciens, Trump et Sanders, donc, ont su donner à l'électeur de base l'impression qu'ils s'intéressaient à eux, à leurs problèmes, tandis que la plupart des autres continuaient à proclamer que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles et que la reprise est là. Bref, la droite que souhaite rassembler l'équipe de l'American Affairs Journal devra renoncer à unifier les marchés, mais aussi renoncer aux aventures extérieures et donc rompre radicalement avec le programme des néoconservateurs, ces utopistes de la fin de l'histoire. Mais elle doit aussi en finir, dit-il, avec l'idée de la guerre culturelle que Patrick Buchanan, on s'en souvient, avait imposée à l'agenda républicain à l'époque de George Bush. En effet, l'arrêt de la Cour suprême reconnaissant le mariage homosexuel, Obergefell versus Hodges, lui a mis un terme à cette guerre culturelle. Nous avons encore du mal à imaginer un changement radical de direction. Nous avons du mal à concevoir que l'action politique peut nous faire basculer vers un avenir différent, conclut ce Papin. On le voit, un nouveau conservatisme américain Trumpo-compatible est en train de se doter de ses intellectuels organiques.
Eh oui, quand les idées suivent finalement le Donald Trump. Merci beaucoup, Brice Couturier. On peut bien sûr retrouver vos chroniques sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, un site sur lequel vous pouvez écouter, réécouter, télécharger toutes vos chroniques et vos émissions préférées sur France Culture